France Inter.
Avec Rebecca Valta, avec Julie Conti, avec Alexandre Cominet, Monsieur Benemorin, et nos invités qui Tania Gavarski et Charlie Dupont. En attendant, Beau Jangles, merci de venir nous parler de cette pièce, l'adaptation du roman d'Olivier Bourdeau, que vous jouez en tournée. Depuis combien de temps d'ailleurs vous jouez cette pièce ?
Oula, ça va faire 3 ans, je pense.
Mais non.
Ah oui. On est parti pour une quinzaine d'années.
Super. Wow. Bon, une fois que vous connaissez votre texte, c'est quand même bien. Histoire très particulière, avec au cœur de cette histoire, un disque, une musique qui fait partie intégrante de la vie de l'héroïne. Elle vit autour du titre de Nina Simone, En attendant Bojangles, qui est une histoire très particulière d'ailleurs, cette chanson, qui trouve écho dans sa propre histoire. Quelqu'un qui est en prison et qui danse.
Exactement.
Merci. Cette émission va être tellement longue, mon Dieu.
Demain, nous parlerons de Tata Yo-Yo.
J'ai demandé à chacun d'entre vous d'imaginer quelle chanson pouvait trouver un écho justement sur sa vie personnelle et trouver.
Ah, c'était ça toute
ouais,
la.
Ouais, ouais.
Ouais, je suis pas allé aussi loin, moi.
La chanson, Lisa, pour toi, c'est quoi ta chanson?
C'est une chanson qui s'appelle Looking for Knives. Et en gros, c'est une fille qui dit qu'elle a besoin de plus d'intensité. Donc elle dit qu'elle demande une carte pour explorer le monde et on lui donne juste le chemin pour retourner à la maison.
Ah oui.
Elle veut des couteaux, on lui donne des fleurs. Enfin bref, et je me suis beaucoup identifiée à ce besoin d'intensité.
Wow.
C'est ça là.
Oh, le melon.
Non, déjà, elle comprend les paroles.
Ouais, c'est ça.
Déjà, elle comprend la question que je lui pose.
Oui,
c'est la seule qui travaille bien. C'est la seule qui travaille, surtout.
Attends.
Rebecca.
Moi, c'est Con de Brigitte Fontaine. Mais c'est parce que Elsa m'a demandé hier, j'étais dans le TGV, elle m'a dit une chanson pour refléter ta vie, et je venais d'aller pisser dans le TGV, et j'ai, avec la cuvette baissée. J'ai pas levé la cuvette, parce que je pisse debout pour éviter les bactéries et les mycoses. Et du coup, j'ai foutu de la pisse partout, je me suis dit, mais il y a que Con de Brigitte Fontaine.
Je suis malheureuse parce que je suis con.
C'est vrai que ça me va bien.
Et que tout le monde.
On a eu beaucoup d'infos, hein.
Julie, ou trop d'infos.
Beaucoup d'infos.
Julie Conti.
Pour retenir la mycose.
Ça, voilà, c'est un petit lien avec Rebecca. J'ai pris mycose de la femme.
Ah, waouh. Wow.
Mais t'es obligé d'expliquer quand même.
C'est clair, je pense que ça concerne tout le monde. C'est une chanson qui est très concernante, je la trouve super.
Okay. Et qui résume ta vie.
Ok,
très bien. Leïla.
Moi j'ai pris Déjeuner en paix.
Pour moi, ce que m'inspire le monde, elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix.
Alors que ça commence par, pour toi qui fais des infos sur France 2, ça commence par j'abandonne sur une chaise journal du matin, c'est-à-dire je me débarrasse des infos.
Oui, mais en fait c'est hyper beau comme texte, parce que c'est un texte de Philippe Jean qui raconte vraiment la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'en gros, t'as les infos du matin, mais t'es capable à un moment de dire, bah nous on est juste dans notre histoire, dans notre quotidien, tous les deux dans notre petit déjeuner, et je demande juste une petite bulle, juste ça, c'est pas être misanthrope, mais c'est simplement être, s'isoler un tout petit peu.
Très bien, Olivier Laff.
Eh bien, moi je choisis ça.
Ah ça, tiens que tu.
Ah mais j'ai le droit à chaque chanson.
Ah c'est plus beau.
Alors, tu réalises toi.
Moi j'ai lancé. Et il vient de se faire larguer.
C'est Saint-Valentin.
Ça résume ta vie.
C'est pas que ça résume, mais que ça accompagne en tout cas le rapport au temps dans l'amour. C'est une chanson qui en effet qui a ce côté très très vieillot, mais en fait parce qu'elle peut l'être. C'est une chanson qui date de elle a plusieurs centaines d'années. C'était déjà la chanson préférée de Marie-Antoinette, figurez-vous. Donc voilà, et je
qui n'a pas pu l'écouter tout le temps.
Non. Mais elle avait déjà le disque de Nana Mouskouri qui était déjà là. Mais donc voilà, je sais qu'il n'y a pas de. J'ai pas de chute, j'ai pas de gag.
Non, mais elle est le bourdon de ta vie.
C'est pas fait.
Mais tout à fait, c'est exactement ça.
causes.
C'est pas fait pour qu'il y ait un gag. C'est, moi, je trouve que l'exercice de se dire si quelle est la chanson qui donnerait le plus d'écho à ma vie, j'ai trouvé l'exercice de En attendant Beau Jungles intéressant. Ouais. Daniel Morin, quelle serait ta chanson? Voilà.
Francky moi, Vincent, toi.
Non, c'est les Tinder Sticks.
Ah ouais.
C'est beau, non?
Et pourquoi?
Parce que ma vie est faite de petites contrariétés qui, au final, me donnent un sentiment de solitude et de tristesse à vouloir se noyer.
Bah, c'est
mourir.
La tristitude.
Ouais.
Alexandre?
Oui. mon morceau?
Ouais.
C'est
oui.
Easy Love de Lady.
Ah ouais. Baby.
Alors j'ai demandé. La chanson qui résume le mieux ta vie, pas ta nuit.
Non, ma vie, non, mais c'est je vis la nuit et la vie est une fête. Et j'adore ce son.
Je me suis mis au même exercice.
Et toi, Nagui?
Ah, forcément.
Bruce.
Bah, ouais.
Bah oui, Bruce.
Ah.
Le boss.
Mais alors pourquoi cette chanson?
Bah, tout le monde a un cœur affamé et. Quel que soit l'argent que tu as, quel que soit le moment où ça arrive dans ta vie, il l'encourage à rester entre guillemets en appétit, en tout cas, et à croquer la vie en plein dedans. Et j'ai évidemment écouté cette chanson quand j'étais un minot, mais ouais, sorte de mentor, avec un côté, en même temps, on ne lâche rien. Et quelle que soit la condition dans laquelle on se retrouve, dans le doute, au chômage, viré, au contraire, en train de s'épanouir. Tania, vous a demandé le même exercice?
Alors moi j'ai choisi,
Queen.
Parce qu'on est le 14 février, que c'est l'anniversaire de ma fille et que c'est le plus beau rôle de ma vie.
Oh.
Mama.
Et vous l'avez appelée Bohémienne, donc c'est...
Évidemment. Non, elle s'appelle Emma Valentine, évidemment. Et parce que c'est le rôle de ma vie, hein.
Tania,
parce
ça
que
vrai.
Queen, cette chanson me met les poils.
Je suis d'accord, mais enfin.
Non, le propos n'est pas exactement. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord.
On n'est pas dans le Happy Birthday.
On n'est pas dans le Happy Birthday du tout.
Ni Belle Saint-Valentin.
Non.
Pour vous, Charlie,
je crois que je vous ai donné Jim Hall, le concerto d'Aaron Quess.
Instrumental
sublime.
Mais comment un instrumental peut résumer entre guillemets ce qu'on ressent dans la vie?
T'as pas envie de te rendre, tu t'es pas.
Parce que je voulais pas être littéral sur les paroles, mais que je trouve que le fait que ce soit un morceau du 18e repris mille fois, qui est même une intro d'une chanson de Sardou, c'est vous dire si j'ai de la culture musicale, qui est entièrement arrondi par cette bande de jazzeux, me bouleverse.
Et on peut y mettre toutes les émotions que l'on veut.
Inch'Allah. I knew a man,
Bojangles, and he danced for you. Et elle est présente, cette musique, cette chanson de Nina Simone. Mais quand on sépare tous les combats par lesquels elle est passée, les humiliations par lesquelles elle est passée, la manière dont elle s'est battue, ça donne encore plus de force au texte de cette chanson.
Il faut peut-être raconter aux gens qui nous écoutent que c'est une chanson de Jeff Walker à la base, qui s'est retrouvé, donc chanson en 1968, qui s'est retrouvé emprisonné avec un SDF qui lui-même se faisait appeler Mr. Bojangle. Pourquoi? Parce qu'il se donnait ce nom
cachait,
à lui-même.
Il cachait son identité en fait, dans ça.
En faisant référence à un danseur des années 30 qui était une sorte de Fred Astaire en noir et blanc, qui sautait très haut et dansait très bas. Métaphore des ups and downs du personnage joué par Tania dans la pièce. Et c'est ça qui est sublime dans la pièce. Je dis toujours, c'est dans la merde que fleurit le lotus. Il y a quelque chose.
Là, tu sais, il me manque les petites, le pudding qu'il y a avant le massage thaïlandais, tu sais.
Nous avons des sages en Wallonie.
Namasté.
Au gingembre. Et donc, Tania est elle-même faite de up et de downs dans ce. Et très aimée par le mari que je joue dans Bojangles et racontée par leur enfant.
Ouais.
Et c'est tout ça qui fait.
On va en parler du fond et de la forme aussi de cette pièce que vous interprétez et que vous interprétez en tournée. Mais d'abord, voici Monsieur Aldelave qui est tellement fan de vous.
Évidemment.
Tania Charlie.
Je suis fan de Tania Garbarski, la femme de Charlie Dupont, youpi. Vous tenez votre nom d'un sport ultra dangereux, c'est de la bagarre à ski, il faut pas être peureux. Je suis fan de Charlie Dupont, le mari de Tania Garbarski, du coup. Vous tenez votre nom d'un sport ultra dangereux. dangereux. Tu balances des lits du pont, il faut pas être peureux. Et vous êtes là pour en Unstoppable Jungles. Y'a vraiment un choix fou pour les rimes en angles. C'est surtout l'anagramme du mot français jonglage. Un sport hyper dangereux, tu jongles pendant que tu nages. Je suis fan de Nina Simone, mais j'avoue je suis plus si common. La scie c'est un instrument magique qui touche le cœur et qui me permet de jouer le morceau dont je parlais tout à l'heure.
Non, tu as joué de la scie
comme un chien. Oh waouh, vraiment de vos.
On dirait un chien qui meurt.
Non, c'est plaisir d'amour. Écoute,
la scie. Ah.
Il est fort, mon père.
Oh, wow.
Et je suis fan de vous. Et en attendant vos jungles, ça m'a donné envie d'écouter un beau jingles.
La bande originale, Leïla Kadour et Maggie sur France Inter.
Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec qui ça donc ?
La bande originale.
Oh là là. On est bien dessus.
Il m'a scié.
Je reconnais Nagui, franchement, il faudrait qu'on le paye.
Un jour, pour l'instant, évoquons pour la Saint-Valentin le titre,
son album.
Le titre du même nom, éponyme.
Absolument, son album.
Et le très
et
beau
le clip est à voir aussi.
Mais il est dingue.
Non, mais il a joué de la scie.
Tu nous fais l'atelier scie après.
Ah ouais.
Ah, je peux vous apprendre à jouer de la scie.
Ah ouais.
Ça va pas être très visuel. Là.
Alors. J'ai eu la même ref que Charlie Dupont, c'est-à-dire Raymond DeVos. La première fois que j'ai vu quelqu'un jouer de la scie, ça devait être dans une émission de genre Le Grand Échiquier. C'était Raymond DeVos.
Tout à fait, il en jouait très bien et voilà. Je tiens juste à signaler que j'ai un peu
galéré.
Non mais qu'il manquait un peu de colophane, j'ai galéré parce que c'est une petite résine.
Colophane, c'est ce que tu mets sur la
exactement, on frotte l'archet pour que ça permette de mettre en résonance soit les cordes du violon, soit
ce qui fait que tu as scié l'archet et que l'écrin du cheval est parti au fur et à mesure que tu jouais.
Exactement.
Merci de nous faire rentrer dans les coulisses.
Ouais, c'est intéressant.
Ou pas.
Ouais. Moi j'aime bien.
C'est vrai.
Ouais. Okay. Moi, je prends des trucs de ta fille pour une de mes chroniques. Je pense que ça pourrait pas mal.
Revenons à cette.
Oh non, c'est bien la scie.
Ils ont rien dit.
Adaptation théâtrale.
Ça m'arrive.
Vous interprétez donc aux côtés de Jérémy Pétrus cette pièce mise en scène par Victoire Berger-Perrin. Parlons d'abord de l'histoire en elle-même. Le narrateur, c'est l'enfant qui profite un tout petit peu de... j'ai pas envie de dire de la folie, mais de l'originalité en tout cas de sa mère. Dans son éducation, on n'est pas obligé d'aller à l'école, on n'est pas obligé de suivre ce que la société nous impose, nous inflige, on n'est pas obligé d'ouvrir son courrier, on n'est pas obligé de répondre aux injonctures.
Injonctions, c'est bien.
Hey, tu peux lui mettre un coup de scie parce que c'est la grande démo.
Conjoncture et injonction sont mélangées. On n'est pas obligé de répondre à tous les codes, en l'occurrence. Et elle est... hors jeu, mais dangereusement hors jeu ensuite.
Oui, exactement. Ça commence plutôt bien, en fait.
Ouais,
on se dit qu'on a tous envie de vivre dans la famille Bojangles. Ils ont l'air de bien s'éclater. Ils font la fête tous les soirs dans leur appartement.
Ils dansent, ils chantent.
Il y a un oiseau qui se balade.
Elle change de prénom tous les jours.
Exactement. Elle change de prénom tous les jours. Et puis, malheureusement, elle est rattrapée à un moment donné par une pathologie quand même assez importante.
Mais qui est là dès le début, sauf qu'on s'en rend compte, nous, qu'au fur et à mesure que les choses s'aggravent.
Exactement. Et puis, ça se met quand même à empirer. Les crises sont de plus en plus fréquentes et ça devient difficile à gérer.
Mais il y a de l'amour à l'intérieur.
Il y a beaucoup d'amour, c'est avant tout une folle histoire d'amour, en fait.
C'est un doux mélange.
Oui, c'est-à-dire qu'elle est une sorte de schizophrénie où elle a des hauts, elle a des bas, où elle peut même souffrir de ces états-là, et que l'on qualifie de folie, entre guillemets. Lui, il est fou. Aussi, votre mari, fou d'amour.
Il est fou d'amour.
Réellement.
Et ce qu'il y a de absolument magnifique et poétique dans l'invention d'Olivier Bourdeau de donner la place au fils, c'est qu'en fait, on se rend compte, donc, il est à la fois le narrateur, narrateur et à la fois il intervient comme enfant. Il raconte ce qu'il a vécu enfant, les souvenirs de son enfance, et on sent qu'il en a des très très bons souvenirs en fait, que ses parents lui ont laissé vraiment un souvenir d'amour fou.
Il y a toute une évoluture dans le...
Qu'est-ce qu'il est fort, hein. Qu'est-ce qu'il est fort.
Je savais que je pouvais compter sur toi.
C'est bien, t'as attendu en plus.
Ceux qui n'ont pas le rêve ne comprennent pas, mais on connaît son cours de route. Elle ne veut rien comme tout le monde. Elle est totalement décalée, mais vis-à-vis de tout, y compris dans le couple.
Tout sauf l'ennui.
Tout sauf l'ennui, exactement.
Ils se sont signés quelque chose comme ça, ils se remarient à Tire-Larigot. Il y a quelque chose de... On est entre La Petite Maison dans la Prairie et Rage Against the Machine. Ils ont dit merde à tout, mais en s'aimant beaucoup.
Oui, c'est-à-dire que lui, déjà, il a eu par malice l'opportunité de monter un garage et de faire les contrôles automobiles, les contrôles techniques. Il a pris ce créneau-là, il a pris beaucoup d'argent, peut-être en oubliant d'ailleurs de payer les impôts, ce qui est une occasion pour avoir encore plus d'argent, c'est de ne pas payer les impôts. Sauf que
il y a également des conseils pratiques dans cette pièce.
Sauf qu'ils sont rattrapés par la vie.
C'est ce genre
mais
de gens qui ne
laissent pas
jamais
travailler non plus. Au bout d'un certain moment, c'est tellement fusionnel entre eux qu'elle a plus envie qu'ils partent travailler. Donc ça devient compliqué pour payer les impôts après.
En fait, on a tous cette folie en amour forcément, mais qui est grossie à la loupe pour que ce soit dramaturgiquement amusant. Mais où est la frontière de la folie dans l'amour?
Je sais pas si on a tous cette folie en amour, pardon.
Si on n'avait pas peur, en tout cas, du regard des autres, du jugement ou d'être hors norme, peut-être qu'on se lâcherait comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on est obligé de respecter les règles de la vie en société.
Il faut toujours s'abandonner un peu pour être amoureux.
Quand on écoute les discours de cette mère, pendant un long moment, on la suit et on se dit mais oui, elle a raison, c'est génial. Elle a un long monologue où elle s'adresse à la maîtresse d'école, où elle dit mais je comprends pas pourquoi je peux pas retirer mon fils de l'école pour lui montrer les cerisiers en fleurs. Et c'est aussi important que le cours que vous allez lui donner.
Et il y en a plein qui font ça d'ailleurs. Et qui font les cours à la maison entre guillemets en disant que le système scolaire n'est pas le bon système pour apprendre et veulent plutôt être concrètement sur le terrain, dans la vie et voir les choses se faire.
Oui, on suit son raisonnement assez longtemps, en fait.
C'est ce genre de gens qui n'ouvrent jamais leur courrier.
D'où les problèmes administratifs.
L'huissier arrive personnellement.
Et il faut le dire, la fin est extrêmement émouvante aussi, pour savoir jusqu'où cet amour va aller, jusqu'où ils vont rester ensemble par amour, et comment, parce qu'on est toujours par le prisme de l'enfant, comment l'enfant va vivre, subir ou encaisser, parce qu'il est obligé aussi de se déguiser, il est obligé d'être dans cette même folie, de s'habiller comme un gosse de riche américain derrière une décapotable américaine. Tout ça est obligé de jouer le jeu.
Aux règles à l'école, à l'envers, à l'endroit, varier un petit peu. C'est vrai que ça lui donne une capacité d'adaptation extraordinaire.
Il a appris à raconter grâce à ses parents. Et ça, c'est philosophiquement quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. C'est que, finalement, une vie réussie, ça ne veut rien dire, mais on peut, quand on peut se raconter une vie à soi-même, on a déjà fait un pas énorme. Lui, il a les outils suffisants pour se raconter positivement sa vie. Ça, c'est aussi Olivier Bourdeau, c'est l'auteur du roman, c'est aussi autobiographique à certains égards, et c'est la force.
Ah, carrément.
Et puis, non, c'est pas. Il n'a pas eu une maman pathologiquement folle, mais.
Mais son père n'allait pas très bien.
J'arrive même pas à dire.
Non, il s'est basé. Il a transfiguré le personnage de son père.
Ok, sur sa maman. Ouais. D'accord. C'est en tournée le 14 mars prochain. Vous serez à Gland, en Suisse. Ouais. Je te regarde parce que je ne sais pas où.
Est-ce que tu dis Gland?
Non, mais dans quel canton?
Canton de Vaud. Ça n'est pas très loin de Genève non plus.
Oui, c'est à 20 minutes.
Mais c'est vrai que c'est un nom de ville qui fait beaucoup rire.
C'est entre Genève et Lausanne. En fait.
Il y a une légende qui disait qu'il y avait un panneau sur l'autoroute. Il a existé vraiment?
Aubonne, Gimel, Gland.
Aubonne, Gimel, Gland.
Aubonne,
différente.
C'est trois bleds et ça faisait comme ça sur l'autoroute.
Et ils l'ont changé en
ils ont inversé le nom. Mais il y avait, pendant que tu relais, c'était marqué Aubonne, Gimel, Gland.
Vous serez pendant plusieurs soirs, les 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 mars à Comédie Odéon à Lyon. Ensuite, à l'île de la Réunion pour le festival Comédie. Puis de retour à Agen, Villeneuve sur Lot au mois de mai. Montauban également. On en parle jusqu'à midi. Mais d'abord, voici Lisa Delmoitte. Parce que vous n'auriez pas évoqué cette histoire comme ça.
Non, sous prétexte qu'on s'invente une vie, tout de suite on est bipolaire, schizophrène, mais qu'est-ce que le réel? Suis-je dans la vraie vie, là, tout de suite? Dans un cauchemar réveillé avec un mec qui joue de la scie, en faisant rimer Gavarsky avec bagarre et ski. Bon, c'est quand même pas très réaliste, ça. La frontière est parfois floue entre le délire et la réalité. Parfois, un délire devient réalité. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai fait rire Pierre Arditi devant Nagui. Vous me dites, ah oui, c'était vendredi passé. Mais j'aurais dit la même chose il y a 3 ans, vous m'auriez dit, bien sûr, Lisa. Et dans ton rêve, monsieur Arditi et Nagui sont encore vivants, c'est ça? Non.
Ma journée,
moi, je suis une grande rêveuse au travail. Déjà, je suis une grande rêveuse en amour. Ça, c'était plus une histoire me semble rocambolesque, plus j'ai envie d'y aller. Oh là là. Bon, le problème de ça, c'est que si une histoire me semble banale, j'y vais pas. Alors qu'elle est peut-être elle vaut la peine. Mais bon, c'est trop classique. On est collègues, Daniel. C'est pas exceptionnel. Ça me fait pas rêver, quoi. Bon. Mais c'est vrai, moi j'aime quand c'est délirant. Un mec qui habite à l'autre bout du monde, je tombe amoureuse direct. Mais mon voisin de palier qui me déclare sa flamme, je suis là, mec, allez, c'est quoi ton petit truc, là? Donne-moi quelque chose, une particularité. Je te préviens, je couche avec toi que si t'as une jambe de bois, ok? Hein? Sans écharpe, moi j'y vais pas. Oh. Cela dit, j'ai du recul sur moi-même et sur mes penchants délirants, mais votre personnage, Tania Gawarski, souffre de véritables maladies mentales. On est plus sur de la simple fantaisie et c'est important de faire la distinction. Je trouve que de nos jours, les gens se diagnostiquent trop vite. Hein. Mmh. Moi, j'ai une pote qui m'a dit qu'elle était schizophrène parce que parfois elle a envie d'aller travailler, parfois pas. Ça s'appelle être humain, Julie. Hein. T'es pas bipolaire, t'aimes juste pas le lundi. Ouais. Mais ces troubles psychiques, les vrais, c'est à la famille de les gérer aussi et c'est ce que votre personnage, Charlie Dupont, tente de faire en nourrissant la fantaisie de sa femme. Il l'appelle de plein de noms différents. Il la vouvoie. On dirait Nagui avec Rebecca, Julie et moi quand il sait plus quelle chroniqueuse fille à laquelle. Vous, Rebecca, Julie, enfin ouais, quand il c'est une vraie propre.
Ok, c'est la Saint-Valentin.
Ouais, ouais.
Ok, c'est que de l'amour.
J'aime bien, je châtie bien. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Non, mais c'est une vraie preuve d'amour hein, que de laisser l'autre aller à ses rêveries. Moi, ça me touche parce que je rêve éveillé souvent. Mm. C'est un problème, ça s'appelle le trouble de la rêverie compulsive. Et c'est vraiment compulsif, je fais pas exprès. Un parfois bête exemple, je parle à Daniel, on discute, puis tout à coup, comme ça arrive souvent, il me dit un truc. Et j'en ai rien à foutre. Et quand c'est comme ça, je me sens partir. Allez, mentalement, parce que mes pensées sont tellement plus intéressantes que sa vie. Mais je suis Anne-Lisa, reste dans le réel, parce que Daniel, à un moment, il va se taire, et il va vouloir que tu répondes, et t'auras rien suivi. En plus, il a un grand sourire et un genou à terre. Donc vraiment, Lisa, faut dire quelque chose. Mais je rêve tellement que parfois, je confonds le rêve et la réalité. Est-ce que je parle vraiment à Charlie, Tania, j'en sais rien. Je sais, bon, oui, on va dire que c'est réel. Si c'était un rêve, ce serait beaucoup plus absurde. Dans le studio, il y aurait mon père avec un corps de loutre. Et Charlie, vous auriez un zizi à la place du nez ou une connerie comme ça.
Mais c'est le cas.
Bon, tout ce que je veux dire, c'est laisser les gens rêver, ça aide à supporter la réalité. Et parfois, on rêve tellement fort que le rêve devient réalité. Alors, tu sais quoi? Bah, ok, Daniel, mec, une jambe de bois alors.
Dieu.
C'est à Saint-Valentin.
Un couple.
Je suis fatigué.
Moi, j'en ai mal à la jambe de bois.
Titre.
Allez, Charlie, allez,
Charlie, Tania, vous êtes ensemble sur scène, ensemble à la vie aussi.
Oui.
Une histoire d'amour sur scène et une formidable histoire. Vous jouez énormément ensemble. Vous achetez des droits aussi de pièces ensemble. Vous aimez travailler ensemble.
Bah peut-être pas, si.
Personne d'autre n'aime travailler avec vous.
Posons la question.
Ce que vous avez aimé dans cette pièce, c'est la limite justement entre la folie et je sais pas, et le plaisir et l'amour excessif, c'est le jugement des autres. On est fou dans les yeux des autres.
On est fou dans les yeux des autres. Ça m'a beaucoup parlé votre texte parce que on a énormément de retours de spectateurs qui reviennent voir ce spectacle.
Mmh. On a un record, c'est 12. Une spectatrice est venue 12 fois.
Et qui ont l'air plutôt normés, on va dire, ouais, parce que si ce mot veut dire quelque chose.
Ouais,
mais on a vraiment l'impression que les gens ont besoin, surtout dans le contexte actuel, dans le climat actuel, de venir dans cet appartement où on pète un peu les plombs, où on brise un peu les frontières, parce qu'en effet, c'est quoi la définition de la folie? Pendant un long moment, on a l'impression qu'ils sont pas fous du tout et qu'ils ont raison.
Mais c'est le prisme de l'enfant qui change tout, et ça, c'est la particularité de la pièce.
C'est ce qui rend la chose complètement supportable et poétique, c'est que c'est un enfant qui voit, qui raconte, et donc c'est avec ses yeux qu'on aime cette folie, même si elle part un peu loin à un moment donné.
Oui, non, il explique d'ailleurs que son père note tout ce qui se passe et qu'il va découvrir une sorte de mise en abîme qui fait qu'on a la pièce à laquelle on assiste, mais qu'il va découvrir toutes les notes prises par son père pour mieux comprendre ce qui se passe. Or, lui ne vit la situation qu'au jour le jour, qu'avec cette histoire de prénom, qu'avec cette musique qui passe en permanence, qu'avec cet animal qui ressemble à une sorte de...
Mademoiselle superfétatoire.
Voilà, superfétatoire.
En fait, on comprend en cours de route que ce qu'il nous raconte, c'est le roman qu'il a lu, que son père lui a laissé. Et donc, on ne sait pas, même à l'intérieur de la pièce, si ce qu'on voit est la réalité qu'il a vécue ou est ce qu'il a lu que son père a laissé.
Ou ce qu'il a fantasmé aussi de ses souvenirs d'enfant.
Tu m'étonnes que les gens viennent 12 fois.
Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est... Autant drôle, c'est extrêmement drôle et extrêmement émouvant. On ne peut pas ne pas pleurer à la fin de la pièce. J'imagine que même vous, vous ne pouvez pas être blasé de cette situation. Il doit y avoir une gorge serrée à la
fin. C'est une des raisons pour lesquelles, c'est, Tania, il faut rendre grâce à ma femme ici présente, sous vos applaudissements.
Merci. Saint-Valentin.
Vous connaissez le...
Vous prenez tout au premier degré.
Nous manque à nous dire, on a pas dit. On se réveille.
Elle a toujours aimé jouer la folie et c'est elle qui a été chercher cette aventure-là. En fait, on est tous les deux toujours à la recherche de pièces qui ne nous lassent pas à jouer et qu'on aimerait voir. Ça paraît simple comme critère de sélection.
Vous l'aviez vu jouer par Anne Charrier ?
Alors en fait, la genèse, c'est le roman.
D'accord.
J'ai lu le roman, je suis tombée complètement folle, amoureuse de ce personnage et de cette histoire. Et j'ai contacté la petite maison d'édition Finitude, parce que l'histoire, quand même, après, on en parlera peut-être de comment ce roman a été édité, est assez savoureuse.
Non, on n'a pas le temps. Okay,
j'ai contacté la maison d'édition. Au départ, je n'ai pas pensé à une adaptation théâtrale, j'ai pensé à une adaptation au cinéma. Et très naïvement, j'ai écrit un petit mail à cette maison d'édition. Ils m'ont répondu très vite que les droits venaient d'être signés deux jours avant.
Ah là là. Ce qui a donné ce film avec Virginie Efira.
Exactement.
Romain Duris.
Exactement. Et puis, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à cette adaptation théâtrale. Je me suis dit, bon ben voilà, c'est mort, tant pis. Oui. Et puis j'ai découvert qu'il y avait une adaptation théâtrale. J'ai été voir la pièce, en effet.
Avec Anne Charrier.
Avec Anne Charrier. Oui. Et puis l'année suivante, nous jouions, Charlie et moi, l'adaptation du film Les émotifs anonymes au Théâtre des Béliers, mis en scène par Arthur Juniau. Et puis je me rends compte que je partage ma loge avec Julie Delarme, qui a repris le rôle d'Anne Charrier, et que juste après nous se joue à nouveau En attendant But Jingles.
Trop de signes.
Et je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe?
Cette pièce me court après, il faut
exactement.
Que...
C'est avec Didier Brice aussi, c'est ça?
Exactement. Ouais. Et puis, il se fait que la tournée a été interrompue par le Covid, qui n'ont pas pu...
qui est une bactérie que nous avons lancée personnellement. Vous êtes malheureux. Pouvoir jouer la pièce.
Et voilà.
Quelle ambition.
Et nous y voilà, c'est revenu en boomerang.
C'est une réussite, parce que pour avoir vu les deux versions, elles ont chacune leur particularité, chacune leur humeur, leur rythme, leur folie aussi, leur plaisir,
leur émotion.
Ça qui
est beau,
c'est
que vous l'incarnez très différemment, en fait. C'est très beau dans les deux cas, mais c'est vrai que vous... On pouvait pas. C'est difficile d'imaginer que ça laisse autant de place, en fait. J'ai l'impression que oui, à l'interprétation, parce que cette folie, elle a l'air tellement singulière qu'on pourrait imaginer que ça fiche des choses, et pas du tout. Entre votre interprétation et celle de Anne, je trouve qu'elles sont toutes les deux très réussies et très différentes.
Autant les hommes, c'est de la merde dans les deux cas.
Je regarde que les femmes, moi.
Oui, c'est ça. J'ai un problème.
Ah non.
Est-ce que Anne a eu le temps de venir vous voir?
Non, pas encore, mais elle m'a donné.
Vous êtes copine, donc.
Copine, elle m'a beaucoup parlé de cette aventure, et elle m'a donné beaucoup de conseils. Et puis il faut rendre hommage à Victoire Berger-Perrin, la metteur en scène et adaptatrice de ce roman, qui nous a laissé vraiment beaucoup de place, qui a été très à l'écoute de ce que nous on pouvait proposer.
Qui est venue vivre en Belgique, ce qui est déjà pas un cadeau.
Voilà, exactement. On l'a créé d'abord en Belgique, ça. On l'a joué pendant 3 ans en Belgique.
Et vous saluez Victor, qui est le personnage qui l'a joué dans la version française, et qui, pour une date, chez Victoire Berger-Perrin, l'a joué avec nous aussi. Donc les deux équipes se sont rencontrées à un moment donné.
Trop sympa.
Ouais, l'enfant
trop sympa.
A été le nôtre.
En attendant, Beau Jingle, d'après le roman d'Olivier Bourdeau, en tournée jusqu'à la fin du mois de mai.
Oui.
Avec toutes les dates que je rappellerai tout à l'heure. Nos invités sont avec nous jusqu'à 12h30. Voici Rebecca.
Bravo.
Wow.
Ratata, Nagui.
Chic.
Maintenant que je suis à Paris et que j'ai réussi, vous m'appellerez la Balestra. La même enseigne que la Calas, la Bernard, la Maillan, la Môme et la Ley. La Ley, c'est Leïla en verlan. Vous, les deux banlieusards, vous m'avez comprise. Puis Daniel, soyez gentil, mon petit. Oui. Allez me garer ma voiture, elle est en double fil. C'est la Rolls avec les plaques suisses. Tenez pour la peine. Oh, j'ai plus de monnaie pour ce pauvre laquais. Tiens, Daniel, un rubis. T'iras t'acheter des cheveux en Turquie. Il est où, mon dompé? Ah, il est là.
Hop. Non. Voilà.
Non. Oh non. Ah, avec tout ce que vous gagnez en bourse, Nagui, vous nous servez ce jus de pisse. J'y vais. Il est où votre assistant? J'y vais, apportez-moi mon Molière. Molière, c'est mon bichon. Allez, viens, Molière. Molière, Molière. Jean-Baptiste Poquelin, viens ici. Ah, mais non, il me bourlèche le visage. Pas la figure, Molière, pour le prix qu'elle m'a coûté. Ah, allez, ça suffit, les papouilles. Jean-Baptiste va me lécher autre chose sous la table.
Non.
C'est votre assistant qui ira le promener quand il aura fini ma toilette. J'y vais. Allez sortir, j'y vais. Et n'oubliez pas son sac à crottes, imbécile. Et en Paris, ils sont assez dégueulasses comme ça. Ah mais non, je suis crétine. Non mais c'est pas son sac à crottes, c'est mes entremets chez Fauchon.
Non,
c'est
non,
un délice.
Non.
Ah mais il a de boule de merde, ce fondant. Ah merde, c'est de la merde. Enfin, comme on dit au théâtre, hein, ça porte bonheur. Tiens, Julie, sans, ça te rappellera ta vie. Ça t'apprendra à faire le même métier que moi, la gueuse. On n'est pas du même monde. Plus ça dégage, c'est moi qui parle. La Balestra, elle a tout gagné. Elle est sur le groupe WhatsApp de la bande originale depuis hier. D'ailleurs, 06 62 82 09 23 37, c'est qui? Ah, c'est vous, Nagui. La Balestra, elle a 400 followers de plus sur Instagram. 319, j'ai arrondi. Alors la chambre d'hôtel Mercure miteuse, c'est fini. Dorénavant, je vous ferai envoyer mes notes de frais depuis le Ritz. D'ailleurs, j'ai ramené celle de cette nuit, ça commence tout de suite. Le room service, 800 euros. Le massage intégral, 400 euros. Le gigolo, qui est venu de minuit à minuit 7, 12 euros. C'est comme Inek, vous pouvez le payer en direct. Il accepte les pièces jaunes. D'ailleurs, vous lui enlèverez 3 euros parce qu'il est à peine descendu à la cave. Heureusement que Molière était là. C'est bien, mon Molière. Maman, félicite tes progrès en langue vivante. Puis à l'avenir, vous me mettrez avec des invités de marque. Hein. Tania Garbachier, Charlie Ducon, c'est qui, je connais pas. Ce sera Huppert ou personne. Et désormais, je veux disposer d'une loge personnelle. Hein. Vous me foutez plus avec les débutants. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Et vous mettrez un verrou à la porte pour que je puisse ploter mes collègues et attraper Daniel par la chatte. Puis dites à Elsa que devant mon miroir, je veux un poudrier de coke et une bouteille de Chanel numéro 5 pour me donner du courage avant ma chronique. J'ai rapporté mon flacon. C'est aussi facturé sur la note, Nagui. C'est plus cher que la passe de Cominec. Ouais, je me murge avec du Chanel, bande de jaloux. Je suis une star et je suis suisse. Ça vous revient pas? Gainsbourg, il brûle son pauvre billet de 500 balles sur TF1 pour critiquer le système fiscal et vous passer par le plafond. Vous voulez voir ce que je perds en impôts avec vos conneries? Tiens, voilà. Fini le flacon, je brûle mon vison et le studio. Ça vous donnera une idée. Mais non, je vais pas tout cramer. Après, je fais comment pour lire ma chronique papier? Ce serait dommage de vous priver de ce chef-d'œuvre. J'espère que vous aurez la référence. Jolie mamie, je m'en vais guerroyer à la croisade. Je déconne, c'est vous les jacouilles. Moi je porte de la vraie fourrure et du Chanel 900 millilitres. C'est vous les pouilleux avec vos barbes mal rasées de sarrasin et vos bonnets zarats de salafistes. À moi les grandes scènes, les premiers rôles. À moi les gens qui me lèchent le cul, Daniel va te brosser les dents. À moi Paname, on va renommer une place avec mon nom. Le problème c'est laquelle? Elles sont toutes dégueulasses. La place Vendôme? Non merci. Si c'est pour qu'un artiste miteux il foute ses sculptures de champi hallucinogènes pour Art Basel, après quoi vous risqueriez de voir double et la Balestra, il n'y en a qu'une. Et si vous voulez voir des champignons, pas besoin d'aller jusqu'à Vendôme. Hein. Venez voir les chattes de gauche de Radio France. Ah, c'est une culture, c'est les champignons de Paris ici. Une culture, j'ai dit Daniel, pas France Culture. D'ailleurs, si vous voulez vous faire un bon gros trip, venez bouffer la morille de Julie Conti.
Oh non.
Et Molière, arrête, tu vas te faire un kéole. Après, tu vas devoir sucer comme Inek pour prendre un kick de coke pour pouvoir revenir. Bref, pour citer l'Arletti, Paris est trop petite pour un talent comme le mien qui est devenu si grand. Allez, rideau, Nagui, vous pouvez lancer votre standing ovation. Et la prochaine fois, n'oubliez pas les roses sans épines pour me lancer des fleurs.
Bien.
Ouais. Merci. Mais vous, pour premier mongol.
Mais...
Je vous citerai. J'ai retenu « Merde, c'est de la merde ».
Oh non, de Dieu.
Rebecca
la
Balestra.
Elle est où? La Balestra.
Elle est spéciale Saint-Valentin, comme vous avez entendu, mais elle écrit aussi son livre « Minuit soleil » en librairie et à écouter sur les plateformes.
Il fallait que je repasse Mikos.
C'est Mamory, quoi.
Bah ouais.
Mamory. Champignon de Paris.
Obligé.
Il y a une thématique aujourd'hui, quand même.
On en parle. On parle de En attendant Bojangles. Ouais. Donc, jusqu'à midi et demi, tout à l'heure, nous allons recevoir Baptiste Liger. J'espère qu'il faut prononcer comme ça. Directeur de la rédaction de Lire Magazine.
Pas après aujourd'hui.
Pour parler de l'histoire d'un livre culte, En attendant Bojangles. La musique est présente, évidemment, puisque tout part de cette chanson de Nina Simone. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Mais il y en a d'autres, notamment dans la voiture. Une scène de kidnapping aussi.
Oui.
Eh ben, il faut libérer.
Eh oui, kidnapping consenti.
On est presque dans un Panthère Rose, là.
Complètement. Peter Sellers.
La musique dans vos vies, on va commencer par vous, Tania. On est dans les années 90, début des années 90, vous écoutiez Al Green.
Elle écoute toujours.
Elle écoute et elle danse. Love and Happiness, Leïla.
Et début des années 90, Tania, on vous retrouve au studio Pygmalion à Paris.
Oui, c'était avant ou après l'INSAS. J'ai fait d'abord l'INSAS en Belgique.
Oui.
Et oui, je suis passée par le studio Pygmalion.
Et vous avez rencontré qui au studio Pygmalion?
J'ai rencontré qui au studio Pygmalion?
Ouais.
Je suis vraiment.
Vous vous souvenez plus?
Non, je me souviens.
Ouais.
Plus, franchement, je me souviens plus.
Qu'est-ce que. Oui.
Ça sent la surprise.
Non, je. Et parmi les profs, alors peut-être parmi les profs, ça c'est plus notable.
Il y a encore aussi Freddy.
Charlie.
Il faut m'aider, franchement, je suis nulle.
Daniel Mesguich, Daniel Mouchkine.
Daniel Mesguich, j'ai en effet travaillé avec lui, mais c'était un stage.
D'accord.
Et puis ensuite, il m'a engagée. J'étais dans Don Juan, sa Charlotte. Mm-hmm. Voilà. Avec un compatriote belge, c'est Christian Heck.
C'était un cours de théâtre. Ouais. C'était formidable. Oui. Ouais. C'est un cours de théâtre ou c'est un cours où sont des coachs pour
studio,
acteurs.
Le studio Pygmalion, en fait, travaillait déjà à l'époque, ce qui se faisait pas beaucoup, le travail à la caméra. Ah. C'est pour ça que je suis D'accord. passée par là, parce qu'à l'INSAS, c'était plutôt théâtre. Et donc, il y avait beaucoup de stages face caméra. Et honte à moi, je me rappelle plus de.
C'est pas grave. Charlie Dupont, début des années 90, vous écoutiez. L'unplug de Nirvana.
Je me faisais la réflexion en choisissant ce morceau. On est passé d'un monde où on parlait de l'homme qui avait vendu le monde à un monde où on a devant nous quelqu'un qui a acheté le monde.
Vous pensez à Elon Musk ou à Donald Trump?
Les deux.
Oui, parce que c'est ça. C'est une joint venture. Ouais. Que se passe-t-il à ce moment-là dans la vie de Charlie Dupont?
Mais Charlie, vous découvrez le théâtre un peu par hasard, j'ai envie de dire. Vous êtes en deuxième année de droit et il y a une pièce qui se monte et vous y participez?
J'y participe et il y a quelque chose qui m'a changé le cervelet pour toujours. C'est que c'est devenu un ami aujourd'hui, un camarade qui s'appelle Arnaud van Scheveningen, le premier français qui arrive à prononcer son nom, je lui donne un prix Nobel. Et ce garçon
Arnaud van Scheveningen.
Félicitations, prix Nobel. Ce garçon n'a qu'une jambe et il joue le capitaine Fracasse. Et après 5 minutes, on oublie qu'il n'a qu'une jambe. Le personnage prend le dessus sur son handicap et ça m'a bouleversé à quel point c'était possible. Et je me suis dit, si le théâtre c'est ça,
c'est une révélation, vraiment.
J'ai envie de faire ça.
Ça vous permet d'intégrer une troupe?
Oui. Une troupe qui s'appelait Les Improvistes à l'époque, où nous jouons de fort mauvaises pièces, mais avec beaucoup de joie. et nous faisons de l'impro et nous rions toujours ensemble.
Dans les années 90, milieu cette fois-ci, Tania, encore Queen, toujours Queen.
Oui.
Évidemment.
Ah non, mais c'est mon groupe préféré, voilà.
Vous avez pu les voir sur scène avant que Freddie Mercury nous quitte?
Non, après.
Malheureusement pas.
Si, il y a une tournée, ouais, y a une tournée Queen qui, paraît-il, moi j'ai pas vu.
En hologramme?
Non, du tout. Un chanteur qui remplace Freddie Mercury, ouais. Ouais, qui paraît-il super bien.
Oui,
bah,
mais non. Oui, mais non, je suis d'accord. Oui, mais non, d'accord avec Nina. Non.
Ok, j'ai rien dit.
Par contre, l'interprétation dans le film, je l'ai trouvé formidable.
Ouais, moi aussi.
Là, j'ai pu.
Rami Malek.
Rami Malek, oui.
Exactement.
Que se passe-t-il pour Tania Leila?
J'allais dire Adil Rami au lieu de Rami Malek. Je me suis dit, non, ça va pas. C'est Adil pas Adil Rami qui fait.
Culturel, toujours. Ouais. 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 Culture. Hein. Ah,
quand va, on commence à citer les intellos, tout de suite. Leila, elle déboule.
Quand je l'ai vu avec son grand sourire, je me suis dit, ouais, ça serait drôle en même temps de le voir jouer Queen.
Oh, c'est sûr.
Oh non.
Sinon, sinon.
Tania, pardon, revenons à la veuve de l'architecte dans ces années-là avec Michel Morgan.
Exactement, ça, c'est mon tout premier téléfilm avec également Jacques François et Olivier Sitruc. Un très très bon souvenir.
Ce sont vos débuts devant la caméra.
Oui.
Dans ces années 90, il y aura aussi.
C'est impressionnant, j'imagine, de, ouais. de alors, croiser les yeux.
Michel Morgan était absolument génial avec moi. Je me rappelle d'une petite anecdote que j'ai adoré, c'est que c'est mon premier rôle donc à l'écran et j'avais malheureusement dans ce film, ça se passe pas très bien pour moi, une scène de viol et on jouait par -6 degrés dans une gare à Schaerbeek en Belgique où je devais être donc plus ou moins nue et on m'avait loué un camping-car entre les prises pour aller me changer et Michel Morgan m'avait caché dans le camping-car une bouteille de vodka pour me réchauffer entre les prises.
C'est mignon,
le bon ouais. ficelle.
C'est tout début dans l'alcoolisme.
Charlie Dupont, vous écoutiez dans le milieu des années 90 les Portishead, Glory Box.
Comme tout le monde, j'ai envie de dire.
Mais vous vouliez dénoncer un vol.
Ah, vous avez retenu ça, merci.
Bah oui.
Oui, parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est toupillé à Isaac Hayes.
Oh.
Ah ouais.
Ah ouais.
Ah
ouais.
Oh, ça va, ça va.
Ça ressemble, mais ça n'a pas grand-chose à voir.
Ah si, c'est complètement pillé. Il y a plus de 3 notes là.
Ah ouais.
On est bon là.
C'est fou, hein.
Il y a tout. Il y a les cordes, il y a la basse.
Ouais. C'est juste enlever la voix.
Ouais, ouais, ouais.
Ah dis donc.
Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette musique?
Ah bah je suis déçu là.
Ah mais ils ont repris les droits peut-être, non?
Ouais, ouais, ils ont dû payer les droits, non?
Je ne crois pas.
Non, ils sont connus pour être des fumiers.
Non, hein, non, mais le problème, c'est que pour payer des droits, il faut que quelqu'un les réclame. Si Isaac Hayes ou ses ayants droit n'ont rien réclamé, ça passe crème.
Tu m'as l'air de connaître
qu'est-ce
le dossier.
Qu'est-ce qu'elle évoque? Non, mais il y a beaucoup de procès faits dans le monde de la musique.
Gilbert Montagnier, qui est l'auteur de cette phrase que tous les chanteurs ont repris après lui. Est-ce que vous êtes là? Pardon. Quoi?
Charlie. Bonsoir Charlie, c'est bientôt le week-end, on va se reposer, on va se détendre. Ne gâchons pas ce vendredi. Allons. Donc, on est avec une publicité tournée.
Une publicité,
Leila,
ouais. Une publicité où vous devez incarner un prince sur un poney imaginaire.
Merde, oui. Non, alors, non. Vous exagérez.
Non.
Non, alors, Choco Prince, donc c'est un biscuit chocolaté de qualité.
De qualité, je ne sais pas.
Il continue de vous payer.
C'est incorporé.
Si. Si, les princes. Ah, si, on dit pas Choco Prince, on dit les princes.
Il a eu de toute son histoire.
Parce que nous, on a un vrai prince.
Ah oui, prince, c'est vrai. Il a eu. Mais nous, en Belgique, on a une vraie royauté.
On doit distinguer.
Et il a eu une fois dans son histoire, comment dire en Belgique, une incarnation physique, et je fus cette personne. Sinon, il a toujours été en dessin animé, en publicité.
Ah ouais.
Ils ont décidé, c'est une erreur, et ça m'a amené un tournage absolument rocambolesque en Afrique du Sud, parce qu'il faut évidemment aller en Afrique du
Bien
Sud
sûr.
Pour trouver un cheval blanc. Je me suis beaucoup amusé, j'ai été Choco Prince. Voilà, merci.
Bravo. Bon.
Plaisir. Wow. En 97-99, Tania, vous écoutiez Creep.
Je suis une crêpe. Tant de rire, j'ai trop bien payé, je trouve.
Oui, non. Elle nous a happé. Leila, que se passe-t-il pour Tania? Et pourquoi cette musique en particulier?
Oh là, bah parce que je suis une crêpe.
la double.
Et à cette époque-là, Tania, vous chantez dans l'opéra de Katsu. Vous chantez aussi dans Les Misérables.
Oui. Alors, j'ai eu toute une période comédie musicale.
Ouais.
J'ai commencé, en fait, comme ça. Et j'adore ça, j'adore chanter. J'ai refait il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, Mamma Mia.
Les gens n'ont pas terminé de rire pour la blague il y a 20 minutes.
Il y a 20 minutes.
J'ai perdu la Suisse.
Mais c'est vrai qu'à l'époque de l'opéra de Katsu, vous dites « je ne savais pas chanter, mais j'aimais chanter ».
Exactement, mais c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas, en fait.
Il y a Arnaud qui a cette
j'adore phrase. Chanter, je trouve que c'est
pas... Je voudrais juste rebondir là-dessus. Arnaud qui a cette phrase sublime, notre chanteur regretté. Il ne faut pas chanter juste, et faut juste chanter.
Oui. Ah, il nous manque.
Donc Tania,
pour moi, chanter c'est juste encore un nouveau moyen d'expression. Mais j'ai pas une voix extraordinaire, je n'ai pas une tessiture très large, et surtout ça demandait une hygiène de vie que je pense pas que j'aurais pu tenir pour véritablement faire une carrière. Et donc de temps en temps, quand ça s'y prête, je suis ravie. Par exemple, pour Mamma Mia, le personnage que j'incarnais, c'était pile dans ma tessiture, et donc j'étais ravie d'y retourner il n'y a pas longtemps, mais voilà.
Charlie Dupont, vous écoutiez dans les années fin des années 90, Bachung.
Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie.
Et c'est Leïla, une création.
Oui, Faux Contact.
Oh. C'est alors vraiment un
avec
moment.
Avec Manu Toro et Benoît Forger.
Moment suspendu. Merci parce que vous reliez la musique et l'anecdote, puisque ce morceau me rappelle l'homme avec qui j'ai créé ce programme court, qui n'est plus aujourd'hui, qui était mon meilleur ami. Et cette chanson, c'est lui. Et vous ne le saviez pas. Et pourtant, vous avez fait le lien entre les deux. Merci pour ça. Manu Toro, qui aurait été aujourd'hui le plus grand comique du monde s'il ne nous avait quitté avant de... Il nous a quitté sans arrêter de nous faire rire, parce que Faux Contact est une parodie. Nous avions en Belgique un commandant de sécurité routière qui parlait comme ceci et s'adressait aux usagers afin de leur éviter du désarroi sur la route. Et nous avons utilisé cette manière de parler pour donner des conseils en toute matière. 160 épisodes, comment porter un condom, comment prendre l'ascenseur.
On peut encore le voir, ça.
On peut toujours le voir, voyez-le.
Génial. Baptiste Liger nous a rejoint, bonjour.
Bonjour Nagui.
Merci d'être à ce micro, vous êtes directeur de la rédaction Lire Magazine. En attendant, Beau Jingles est un livre culte.
Absolument, au fur et à mesure des années, évidemment, il a pris un statut particulier, mais avant même sa sortie, c'était un livre qui faisait déjà beaucoup parler. Ce qui est quand même très étrange. Parce que, il faut savoir qu'une rentrée littéraire, la rentrée d'hiver, puisque c'est un livre qui était sorti en début d'année, eh ben, 2-3 mois avant, ça commence déjà à se préparer. Et il y avait déjà des bruits. On disait que le livre déjà se vendait dans de nombreux pays. Les épreuves, enfin, c'est-à-dire le livre avant le livre, étaient déjà envoyés aux libraires.
Là, on est en quelle année à ce moment-là?
On doit être fin 2015, début 2016, si ma mémoire est bonne. Et donc, déjà, il y a un bruit. Alors, forcément, quand vous entendez des choses sur un ouvrage qui n'est pas encore sorti, forcément, vous avez le réflexe d'essayer de le tenter, d'obtenir d'une manière ou d'une autre le livre. Et donc, avant même sa sortie, déjà, l'éditeur a été obligé de revoir son tirage à la hausse.
Excitation maximale.
Mais pourquoi? Parce que l'auteur était inconnu.
Mais l'auteur, on ne savait pas qui c'est Olivier Bourdeau, avec ce titre un peu étrange, En attendant Beau Jingles. En plus, dans une petite maison d'édition, que par franchement Gallimard ou Grasset, les éditions Finitude, qui sont une très bonne maison, mais qui était quand même plutôt... Enfin, qui n'avait pas
de notoriété particulière.
Ouais, en effet. Et donc, avant même sa sortie, c'était un livre qui faisait déjà parler. C'est plutôt bon signe quand même.
Et c'est un succès immédiatement ou il y a eu un petit
ce qui est dingue, c'est qu'évidemment dès sa sortie, vous avez eu les premiers articles de presse, les premières radios, les premières télés, et c'était parti véritablement. C'était tout d'abord assez mesuré, parce que le bouche à oreille, ça se fait pas en une semaine, 15 jours. Non, ça a été un peu au fur et à mesure du temps, mais il y a eu un démarrage déjà assez incroyable pour le premier roman d'un inconnu.
Et comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est le thème abordé? C'est sa poésie ou il y a une de conte aussi réel.
Je dirais, il a correspondu à l'ère du temps. Ça, c'est très important. Il y avait une couve qui était très jolie, très esthétique. Ça peut compter aussi à un moment donné. Ça faisait depuis un petit moment qu'on n'avait pas eu de roman, on va dire, entre guillemets, à la Boris Vian, puisque c'est comme ça qu'il a été, lancé au départ. C'est un mélange d'élégance, d'écriture, de poésie, et puis aussi d'émotion. On pouvait facilement se reconnaître dans le personnage des enfants, ou bien celui de la mère. Et donc, tout ça a créé une dynamique favorable. Et ensuite, quelques semaines après, il y a eu les premiers prix littéraires, car ce livre en a eu toute une tripotée.
Il a continué d'écrire, j'imagine, Olivier Bourdeau.
Mais bien sûr, il a continué d'écrire, mais rebondir après un phénomène tel que celui-ci, c'est quand même très, très difficile.
Alors, une pression, oui.
Eh ben oui, forcément. Et donc, il faut toujours se méfier des chiffres d'éditeurs. On ne sait pas exactement à combien d'exemplaires s'est vendu le livre. Certains disent 800 000, certains disent que ça approche le million. Toute édition confondue, en comptant le poche, parce que le poche aussi a permis au livre de continuer en librairie. Mais évidemment, face à un succès qui relève pratiquement du phénomène paranormal, c'est difficile, oui.
Succès qui dépasse nos frontières, il a été... traduit dans plusieurs langues ?
Oh, a priori, plus d'une trentaine de langues et on n'a pas, peut-être pas tout comptabilisé, oui.
J'ai une toute petite anecdote sur la maison Finitude qui a édité ce livre. Elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal parce que ça, elle a été balancée par sa banque qui, n'ayant jamais vu arriver autant d'argent aussi vite, a cru qu'il vendait de la drogue.
Mais non !
Bah oui, c'était fou. Complètement fou dans leur histoire à eux aussi.
Bah, mettez-vous une petite structure qui n'est pas parisienne en plus, hein, qui est de Gironde. Alors forcément, quand on dit que l'édition est très centralisée, forcément, ça peut être suspect aux yeux de l'administration fiscale, mais pas que.
Est-ce qu'il... Vous savez s'il y a un nouveau roman qui doit...
Je crois que c'était l'an passé, il avait sorti un drôle de livre qui s'appelait Développement personnel, mais qui n'était pas du tout un manuel de développement personnel. C'est-à-dire que c'était un autoportrait où il racontait son histoire de loser, de type cap. Pas de chance qu'il y ait une enfance malheureuse et à plus d'un titre, qui échoue à peu près partout, mais il le faisait avec un certain humour un petit peu décalé, en reprenant tous les codes du manuel du développement personnel, en montrant que tous les conseils, ça ne marchait pas. Oui, mais c'est un humour très drôle et un petit peu amer, et c'est un livre qui est un peu passé inaperçu, et c'est très injuste parce que c'est un vrai régal, et c'est presque un manuel d'écriture en creux, parce qu'on sait que pour lui, ça a été très difficile d'accoucher d'un ouvrage, et vraiment, je recommande développement personnel, oui.
Merci Baptiste Ligier d'être venu et de communiquer cette passion que tu as.
Lisez, bon Dieu,
mais oui,
lisez.
Mais voilà.
Dans la bonne émission, là.
On est vendredi, on est fatigué.
Si, vous mentez, je sais très bien que vous êtes de gros lecteurs.
Merci beaucoup, Baptiste. Voici Julie Conti. Oh, oui.
La poésie. Coucou les amis, je vais vous raconter un truc. En janvier, j'ai joué mon spectacle à Lausanne et la programmatrice d'un théâtre m'a dit « Le spectacle est vraiment super ». Bon, jusque-là, normal, je trouve même plutôt qu'elle sous-estime complètement mon spectacle. Mais derrière, elle a rajouté « Par contre, t'aurais besoin d'un bon relooking ». Et là, clairement, elle sous-estime complètement mon manque de goût. Non, pour faire un relooking, il faut avoir un look. Vous me voyez toutes les semaines, les amis, vous le savez, c'est pas un relooking dont j'ai besoin, c'est une réincarnation. Non, mon seul espoir, c'est que Christina Cordula lance les rênes du bouddhisme. Non, j'en ai conscience. Après, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment important la manière dont je m'habille ? C'est quoi le bon uniforme pour faire rire ? Genre un costume de clown, le nez rouge, des grandes pompes. Bon, moi, avec ce que je picole, le pif rouge, ça devrait débarquer. Et niveau pompe, bah, je fais du 42 fillettes, les amis. Hein. J'étais prédestinée pour ce métier. Mais les amis, mes chaussures, elles se comptent en hectares. Hein. La dernière fois que j'ai acheté une paire, le vendeur m'a précisé que c'était constructible. Alors, qu'est-ce que je portais pour que cette programmatrice me fasse cette remarque ? Du dessigual, des ballerines ou pire, un pantalon ? Non, je trouve qu'il n'y a rien de pire que le pantacourt, enfin à part les connards qui en portent, mais ça s'enfile pas. En vrai, les pantacourts, ça revient à la mode, c'est cyclique, c'est merde, hein, ça revient tout le temps, comme l'herpès et le nazisme, et Kanye West est un peu responsable de ces trois trucs d'ailleurs. Et le pire, c'est que ce soir-là, pour le spectacle, moi j'avais fait un effort niveau fringues, j'avais mis un jeans repassé et un t-shirt blanc. Alors ça peut sembler un détail, mais quand t'as des gosses, un blanc c'est une prise de risque quand même. Je veux dire, une daronne avec un t-shirt blanc, c'est comme porter un bonnet pour passer à 7 à vous, faut avoir foi en l'humanité quand même. C'est vrai, j'avoue, depuis que j'ai des gosses, je porte beaucoup d'imprimés, ça permet de camoufler les taches. Hein. Cette marque marron sur mon t-shirt à imprimé léopard, vous dites, oh mais c'est une rosette de félin qui permet à la bête de se fondre dans l'environnement. Non, c'est du Nutella. Et des fois, c'est même des trucs qui se bouffent pas. Ou alors des trucs qui ont déjà été bouffés. Mais oui, mais pourquoi je porte du léopard à votre avis ? Parce que ça me va bien au teint, mais pas du tout. Moi, je ressemble à une tenancière du bordel du début du siècle. Et salut mon mignon, c'est 5 francs pour te faire polir le casque et 10 balles pour la totale. Et le dicton, dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu portes. On est plus proche d'un message Tinder de 4h du matin qu'un message plein de sagesse. Le proverbe, selon moi, ça devrait être demande ce que je te porte et ce que je porte, je te dirai qui tu es. Un gros charreau, mon salaud. Hein. Cela dit, on peut transmettre une idée à travers nos vêtements. Par exemple, avec les t-shirts à message, on a tous déjà croisé quelqu'un qui portait un t-shirt et Sea Shepherd pour dire qu'il est écolo, futuriste female pour dire qu'il est féministe, ou le fameux FBI Female Body Inspector pour dire que t'es un gros puceau. T-shirt, vraiment t-shirt de puceau. Même un gynéco qui porte ce t-shirt, on sait qu'il a jamais touché une chatte de sa vie, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ma personnalité avec mon outfit of the day ? Donc voilà, j'ai un bonnet vert, des lunettes roses, un t-shirt léopard. En bas, j'ai un training bleu. Qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Bah que je suis peut-être daltonienne. Il y a tellement d'informations et de couleurs, on dirait un test ophtalmo le truc. Moi, avec ce genre de tenue, si tu prends du LSD, la grosse allu, c'est que tu me vois habillée normalement. Cela dit, le fait que je porte un training en bas, ça dit surtout que je sais qu'on est filmé que jusqu'à la taille. Non, faut le dire, en dessous de la console, il y a du laisser aller dans toute l'équipe. Hein. Non, et les auditeurs, vous le savez pas, mais Daniel, il est carrément cul nu. Hein.
Oh non.
Mais oui, mais il était là avant que la radio soit filmée, donc il s'est adapté, mais que à moitié. Bah, c'est déjà pas mal. Hein.
Pas mal déjà.
Bah oui, bah t'aimes ça, hein, mon Daniel, avoir les balais chaleur. Oh, t'es un peu fou. Et j'ai quand même une exigence en matière de mode, c'est de savoir d'où viennent mes fringues. Genre, pas d'extra fast fashion pour moi. Je m'en fous de la qualité, je regarde que la provenance. C'est fondamentalement la même approche que les spectateurs de CNews avec les humoristes. Du coup, pas de Chine pour moi, même avant que Castaner les rejoigne en spécialiste durabilité. La blague, quoi, durabilité chez Chine. Le seul truc écolo qu'ils ont fait, c'est recycler Castaner, quoi. Ils auraient dû le laisser pourrir avec les déchets verts, celui-là. Bon, voilà, si vous voulez venir évaluer mes vannes et mon style, le plus simple, c'est de venir voir mon spectacle, que vous soyez bouddhiste ou LSD, avec ou sans bonnet. Tant que vous n'êtes pas Kanye West et Castaner en pantacourt, vous êtes les bienvenus.
Merci.
Julie Conti.
Alors, pour aller la voir à Tonnet le 1er mars et à Saint-Imier le 15 mars.
Et pour aller voir en attendant Bojangles, ça se passera le 14 mars à Gland en Suisse, puis les 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 mars à Lyon, à la Comédie Odéon, et ensuite à l'île de la Réunion pendant 3 jours, les 26, 29 et 30 avril, puis de retour à Agen, Villeneuve-sur-Lot, Montauban, tout cela au mois de mai. Alexandre Cominec, de quoi vas-tu parler ?
On va recevoir un invité, on va faire le point sur la situation au Moyen-Orient avec un agent du Mossad.
Oh non.
Les infos de midi. La bande originale avec Lisa Poitier, Rebecca Malistra, Julie Conti, Alexandre Cominec, Daniel Morin et nos invités Tania Gabarski et Charlie Dupont.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Tania Gabarski et Charlie Dupont en tournée avec, en attendant Bojangles, en tournée avec Jérémy Pétrus, avec lequel vous partagez la scène. Cette mise en scène de Victoire Berger-Perrin, qu'est-ce qu'elle a de particulière pour vous dans la mesure où j'imagine qu'en fonction des scènes, des théâtres, de l'ouverture et des emplacements, on n'est pas disposé de la même manière par rapport au public, petit 1 et puis petit 2, faire évoluer le décor qui est un bureau, un canapé, puis il y a une profondeur de champ qui nous laisse imaginer les entrées et les sorties dans l'appartement. On est à bord d'une voiture, enfin ça bouge énormément, c'est un jeu aussi de lumière et pas uniquement de déplacement.
Et c'est ce que j'allais dire, en fait le travail de lumière a été absolument magnifique parce qu'il isole les endroits et donc on s'adapte plutôt bien aux différentes salles. On aura la chance à Lyon de s'installer pour quelques jours, donc ça nous permettra aussi de retrouver notre appartement. Et la particularité de la mise en scène de Victoire, c'est que avec très peu de choses, elle évoque énormément de décors différents et elle laisse vraiment place à l'imaginaire, parce qu'à un moment donné ils vont jusqu'à acheter un château en Espagne où ils vont faire la fête.
Ils vont au bout de l'expression, en fait, c'est ça.
Ouais,
c'est-à-dire que c'est l'expression, donc eh ben, on n'a qu'à le faire.
Ouais. Exactement.
Et on repère un endroit et il s'appelle Castillo, donc on y va.
El Castel.
Et avec peu de choses sur le plateau, on a vraiment l'impression de voyager. Je pense que les spectateurs ont l'impression d'avoir vu énormément de décors alors qu'il n'y en a pas tant.
Qu'est-ce que vous avez rajouté dans votre jeu? J'avais pas le souvenir de la pipe, par exemple. Est-ce que ça, c'est un accessoire que vous avez rajouté?
On a poussé,
Charlie,
l'expression jusqu'au bout. Pareil. Non, elle était là. Elle a toujours été là, la pipe.
L'expression de casser la pipe, évidemment. Ouais. J'en connais pas d'autres.
Tout à fait. Non,
elle était là.
Elle a toujours été là.
Y compris au moment du déguisement et. D'accord. Okay,
tout à fait. Je crois que ce qu'on a rajouté, parce que cette pièce a quelque chose de. Un petit plus produit, qui est le fait qu'on est vraiment ensemble dans la vraie vie. Et que les émotions qui nous traversent, nous. Ont ce petit plus aussi, c'est-à-dire que je fais que j'aime beaucoup cette personne et que retomber amoureux et traverser une vie d'amour tous les soirs avec la personne qu'on aime, il y a quelque chose de cathartique et je conseille d'ailleurs à tout un chacun de jouer cette pièce dans son salon afin de favoriser la libido et non.
Saint-Valentin
devant son propre enfant. Non mais
oh non,
je vois pas trop loin. Toujours l'humour, l'humour elle a du trou. Non, mais je crois que cette chose là, en fait, c'est ce qui nous fait.
Elle s'appelle Tania, soyez polis.
Non. Je cite toujours Rocco Siffredi. Dans ce métier, le plaisir qu'on prend est le plaisir qu'on donne. Et il y a un petit plaisir supplémentaire à jouer l'amour avec sa propre.
En tout cas, il y a.
Il y a peut-être aussi, je sais pas, enfin, le grand humour de Charlie Dupont. Il semblerait que dans notre version, on rit plus longtemps. Je ne sais pas pourquoi.
Alors, je vous le confirme, on passe par beaucoup d'états qui sont une sorte de fascination et d'admiration pour se lâcher prise par rapport à la vie, à l'éducation et au rapport que l'on a avec les contraintes de la société. Il y a beaucoup de rire et énormément d'émotions. Et j'ai presque envie de dire, il y a d'autant plus d'émotions à la fin que l'on a ri et qu'on a un peu oublié les dangers de la vie. Et qu'à la fin, on est quand même chopé, même si on sait comment ça va se terminer. On est quand même happé par cette histoire formidablement interprété. Je le rappelle, le 14 mars à Gland, en Suisse, et puis c'est 23, 25, 26 et 27, 28, 29, 30, c'est-à-dire c'est carrément une dizaine de jours, une semaine complète, à la Comédie Odéon. Ça se passe à Lyon et ensuite en tournée au mois de mai en France. Voici l'invité d'Alexandre Kominec.
Oui, parce qu'il n'est pas là, Kominec, et toujours en boîte interdite aux majeurs, du côté de Belgrade. Heureusement, j'ai l'invité. Et ouais, on sait, Donald Trump a annoncé qu'il comptait faire de Gaza la prochaine Côte d'Azur, et pour en parler, on reçoit un agent du Mossad, Omer Golani. Bonjour Omer.
Ma Corée, Daniel, ma Corée du Nord ou ma Corée du Sud? Kolbeseder, je voulais préciser que je ne suis pas que agent du Mossad, j'ai aussi plusieurs restaurants. I'm the king of falafel, the hummus emperor. Et j'ai fait de l'immobilier, real estate. Nagi, you want to make business in Israel? Come with me, we make big money, Sharmouta.
Je ne sais pas que vous êtes dans l'immobilier non plus, Omer.
Bêtard, j'ai fait de l'immobilier. Chaque année, on gagne du terrain, des mètres carrés, il faut construire. I'm a business owner. Ça va, Leila? Elle a peur. Leila et Nagi avaient peur avant parce que je suis arrivé à leur bureau ce matin. J'ai dit, ça, c'est chez vous ici? C'est vos bureaux, les Arabes? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, maintenant, c'est chez moi. It was a joke, ok? C'est de l'humour.
De l'humour juif?
Sioniste.
Je connaissais l'humour juif, pas l'humour sioniste.
Alors, t'as une blague humour sioniste? Qu'est-ce que c'est, deux Palestiniens qui marchent le long d'une falaise?
Je sais pas.
Moi non plus, mais ça commence bien.
Non, plus sérieusement, s'il vous plaît, plus sérieusement, monsieur Golani. Nous vous invitons à la suite de la polémique lancée par Trump, voulant faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient.
Ça serait encore mieux que la Côte d'Azur. Encore mieux, ça serait la Côte d'Azur avec sans les Arabes. J'ai rigolé, là. On va déplacer tous les Gazaouis. C'est vrai qu'on va les déplacer, voilà. Comme dans les Sims, Et les soldats du Hamas, je vais les mettre dans une piscine et enlever l'échelle.
Vous comprenez quand même que dans l'opinion publique, on puisse être choqué par votre volonté de déplacer tous ces gens.
C'est choqué, chic, choc, chouk, chocolat. Il faut le temps de faire le ménage parce que Gaza, c'est le balagan. Il y a de la poussière partout. Il faut nettoyer, balayer, il faut passer l'aspirateur. Donc on va leur demander de soulever les pieds. Et puis après de reposer les pieds et de mettre les pieds droits devant, puis le pied gauche devant et le pied droit et de marcher kacha jusqu'en Égypte.
Alors vous êtes clairement en train de nous dire qu'il n'y aura plus de Gazaouis à Gaza.
Mais attends Omer, il y aura des Gazaouis. Elon Musk a déjà créé les robots humanoïdes, maintenant il va fabriquer les Gazaouis robots. Même couleur de peau, même couleur de cheveux, même personnalité, elle va le télécommander. Et ils se rechargeront avec la prise de la Tesla.
C'était ignoble. Et cette idée de Trump de reconstruire le territoire palestinien s'inspire en partie du plan Gaza 2035. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce plan?
C'est un plan de reconstruction. Des développements économiques, culturels aussi, culturels. Ça va vous plaire sur France Inter. Comme il y a beaucoup chez vous des gays et des lesbiennes qui supportent la Palestine, moi j'ai proposé de faire Drag Race à Gaza. Voilà. Et on va rigoler. Vous allez voir comment ils vont accueillir la communauté LGBT. Ça sera une sorte de Koh Lanta avec les PD.
J'avais un slogan From the Riviera tout aussi. Je pensais que c'était pas mal.
Je connais pas.
Je suis désolé. Mais là, je trouve que vous êtes immonde. Ce projet est une horreur.
Mais c'est immonde. This is a great project. Gaza, Saint-Tropez, des hôtels, des piscines. Et pour ceux qui habitaient dans les tunnels, on va faire des toboggans. On va faire les Nikki Beach à Rafah. Il y aura juste une petite différence au niveau de l'accueil. Pour tout le monde, c'est Nikki Beach. Pour les Arabes, c'est Nikoumouk. Imaginez, la ville serait à mi-chemin entre Abu Dhabi et le Cap d'Agde.
D'ailleurs, en Israël, on a déjà inventé le Burki String.
Le Burki String.
Parfait pour la Fashion Week des Ramallah.
Et est-ce que vous avez, je sais pas, d'autres plans de restructuration de
Qu'est-ce que j'ai. Répète la question, j'ai pas compris.
Vous avez d'autres plans de restructuration?
Ah oui, bête, il y a Benzona, j'en ai plein de plans. Avec Donald Trump qui redessine le monde, je vais pouvoir vendre mes falafels all around the world, y'a maniaque. Hein, on commence avec Gaza, Saint-Tropez, après ça sera l'île Maurice. Oui, l'île Maurice, on va la renommer l'île Maurice Bensoussan. Et après, pour l'Ukraine, on va transformer Donetsk en Courchevel. Ouais, ça c'est facile, parce que comme à Courchevel, il y a déjà la neige et il y a déjà les Russes.
Bon, écoutez, un dernier mot avant que je vous demande de quitter le studio.
Ouais, j'aimerais vous dire que, voilà, que toute cette guerre me fatigue et que j'aimerais que tout le monde au Proche-Orient retrouve la paix, l'harmonie et qu'on vive ensemble comme les frères qu'on les avons toujours été.
Waouh, je m'attendais pas à ça.
Humour sioniste. Yalla, Am Israël Chai, bye.
Ah, il est épuisé. Eh bien, figurez-vous que tout ça, c'est en tournée. Voilà, renseignez-vous.
Vivement le week-end. On va continuer de parler de En attendant Bojangles, cette adaptation théâtrale du roman d'Olivier Bourdeau, portée à la mise en scène par Victoire Berger-Perrin et jouée sur scène par Tania Garbarski, Jérémy Pétrus et Charlie Dupont en tournée. D'autres événements culturels, Leïla.
On cherche une artiste qui est née en 1944 à Détroit, aux États-Unis. Avant d'être une artiste solo, elle a fait partie d'un groupe très connu aux États-Unis, un groupe incontournable de la Motown. Elle interprète même Billie Holiday au cinéma. L'Oscar lui a échappé de peu. Elle aura un César d'honneur. Et bonne nouvelle, elle revient sur scène.
Diana Ross.
Ouais. Absolument. Oh. Diana Ross, 18 ans d'absence.
Ah, ouais, ah bon, ce que j'allais dire, elle les fait pas.
Elle a 80. Et, ben là, et tu sais quoi? Elle non. a 80 balais.
Eh ben, j'aimerais être comme elle a 80 balais.
Elle mais sera le 6 juillet sur scène. C'est pas bien. C'est vraiment ta fête. Elle sera sur scène le 6 juillet à l'Accor Arena, 40 ans après le concert qu'elle avait donné à Bercy. Diana Ross est de retour. C'est un événement qui a été annoncé en début de semaine. Est-ce qu'il y a un artiste comme ça qui vaudrait pour vous un déplacement, quitte à changer de pays, le temps d'un concert, à voyager pour aller le voir sur scène?
Ah ben, il y a peu, on rageait de ne pouvoir voir les Rolling Stones.
Oui.
On jouait en même temps, mais sinon, je pense qu'on aurait pris un
billet pour aller.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Oui.
Bah, dans la grande lutte Beatles-Rolling Stones, il faut se dépêcher de voir les deux ou ceux qui restent,
oui,
les deux.
Deux.
McCartney, j'ai mon empire pour voir McCartney. McCartney, depuis que j'ai vu Get Back, j'ai envie que ce soit mon père. Ce mec était...
Ah, le documentaire, je veux dire. Ouais, et puis la complémentarité avec Lennon, contrairement à tout ce que l'on a pu faire courir comme rumeur, elle était forte. Le problème est venu avec George Harrison, surtout, qui était vexé que ses chansons ne soient pas prises au même niveau que les deux autres. C'est ce qu'il y avait dans le doc, mais c'est formidable. Je ne sais pas si le doc est toujours dispo.
Alors qu'on a fait peser leur mésentente sur sa relation avec Yoko Ono. C'est toujours la femme qui sépare.
Il y avait quand même un peu de ça, et surtout c'était la seule qui était présente dans le studio d'enregistrement de l'album. Et
quand elle chante, on est quand même content que les micros soient éteints.
Autre question, on cherche un lieu devenu mythique dans l'histoire de la musique, un lieu qui a été acheté et transformé par un musicien qui a signé de nombreuses bandes originales de films, notamment celle du film Angélique, Marquise des Anges. J'ai une affection particulière.
Hérouville.
Absolument, le château d'Hérouville, cet ancien relais de poste Bravo, Charlie, où Georges Sand et Frédéric Chopin se retrouvaient dans le Val d'Oise, qui a été transformé par Michel Magne en studio d'enregistrement où sont passés de célèbres résidents. En gros, dans les années 70, tout ce qu'il y avait de mieux.
Dont les Stones.
Les Stones, Pink Floyd, Bowie, Elton John. Elton John a même signé des chansons en lien direct avec le château d'Hérouville. Il y a donc un documentaire signé Christophe Comte, que vous pouvez voir sur France Télévisions, qui trace l'histoire de ce lieu mythique. On a parlé en début de semaine de lieux qui donnent envie de faire du tourisme par rapport à des films ou à des séries. Est-ce qu'il y a des lieux de musique qui vous donnent envie de voyager?
On a notre fille qui étudie à Londres pour l'instant, et généralement quand on va la voir, je passe par le Apple Studio.
Le passage clouté
Non, pas le passage clouté, le Abbey Apple Road. Studio où d'accord. ils ont fait le dernier concert sur le toit,
okay.
qui est devenu un magasin à Abercrombie. C'est
grotesque.
Ah ouais. C'est grotesque, Savile Row.
Ouais. Ouais.
Juste, je sais pas, renifler le truc.
Est-ce que vous vous amusez à vous surprendre sur scène? Est-ce qu'il y a une possibilité d'improvisation dans, en attendant Bojangles, ou au contraire
Charlie a l'œil qui frise là.
C'est tellement délicat qu'il ne faut pas troubler l'autre.
C'est une question qui revient souvent entre Charlie et moi, parce que c'est vraiment le mariage de l'ici et maintenant et de la bonne élève très technique. Et je pense que c'est ce mariage-là qui fonctionne. Donc Charlie, s'il n'a pas l'impression que c'est tous les jours autre chose et de se remettre en danger, évidemment on se remet en danger tous les jours parce que les spectateurs ne sont pas les mêmes et que du coup ça induit complètement sur le spectacle. On ne peut rien improviser parce que la langue d'Olivier Bourdeau et l'adaptation de Victor Berger Perrin ne le permet pas. Il parle en rime quand même. Et donc, c'est très écrit. Donc, il n'y a pas d'improvisation à ce niveau-là. Mais.
Vous parlez en rime, c'est extrêmement agréable et fluide. C'est-à-dire que ça ne donne pas l'impression d'être récité ou de subir, entre guillemets, les rimes.
Non, et ce n'est pas tout le temps en rime non plus. Mais il y a une langue tout à fait particulière. Donc, on n'improvise pas le texte. Mais
dans le corps, par contre, on peut quand même se faire un petit peu rigoler de temps en temps. C'est en effet anecdotique et millimétrique.
Ça veut dire quoi, se faire rigoler dans le corps?
Je vais vous expliquer. Non, c'est-à-dire que...
Saint-Valentin.
Il y a quand même, dans les positions dans l'espace, par okay. exemple, il y a le jeu du crabe. Celui qui est un petit peu plus en arrière sur scène sera celui qu'on regarde, puisque l'autre est obligé de se tourner vers l'arrière.
Alors et ça, donc, certains acteurs sont très friands de ce genre de situation pour gêner leur partenaire et eux être face au public et que le partenaire finisse par être obligé
d'être de dos. Exactement, ouais. Donc on va pas jusqu'au dos, mais ce jeu-là entre nous deux, par exemple, nous amuse beaucoup. Par exemple. Ah non, c'est moi qu'on regarde, non c'est moi.
C'est comme une danse, comme une chorégraphie, et d'ailleurs, référence à Bojangles, c'est chorégraphié, c'est dansé.
C'est complètement, ça danse. Et ça danse beaucoup dans cet appartement. Il faut rendre hommage à Cécile Bon, la chorégraphe, qui a réussi à prendre à Charlie.
Oui, oui.
Ça a été très douloureux, les répétitions de danse.
Et tous les états par lesquels passe, justement, alors elle a tous les prénoms, parce que c'est ça aussi le jeu de la surprise dans le couple, pour éviter de tomber dans la monotonie, c'est jamais la même. Et
on a sauf Georgette.
Alors là, il y a une petite improvisation. Quand il y a des gens qu'on connaît dans la salle, Charlie aime beaucoup donner les prénoms.
Je donne des prénoms différents tous les soirs. Il y aurait par exemple une naguette si vous étiez dans la salle ce soir-là.
Écoutez, je ne vous le souhaite pas. Merci pour la pensée. Mais vous êtes aussi bien une sorte de diva qui s'allonge sur son divan qu'une maman qui essaie de secouer son fils ou qui s'énerve d'ailleurs contre le système scolaire, comme quelqu'un qui oublie de s'habiller aussi dans son coin. Enfin bref, vous passez par tous les états.
Par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Ouais, mais ça doit être extrêmement agréable pour une actrice de jouer tout ça.
Oh là là, c'est très difficile de trouver un autre personnage, un autre rôle après. Très.
C'est
tellement complet de passer, déjà, puisqu'on le disait tout à l'heure, on passe du rire aux larmes, donc il ne faut même pas choisir entre tragédie et comédie quand on joue ce spectacle. Et puis, il y a quelque chose de complètement libératoire. C'est la meilleure salle de sport possible, ce personnage.
Faire rire et faire pleurer en aussi peu de temps, c'est une prouesse. Et puis ça fait réfléchir aussi sur ce que l'on concède justement à la société et au code. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de tous tomber dans une espèce de norme, et qui sont les fous, finalement, ceux qui font exactement d'une manière presque robotique les mêmes gestes et au même moment que tous les autres, ou ceux qui ont une fraîcheur de vivre et
exactement.
De
exactement, il déplace un peu les curseurs, parce que finalement, c'est quoi la définition de la folie?
Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière.
Léonard Cohen, pour...
Michel Audiard, non?
Alors, Léonard Cohen a fait une chanson en disant il faut laisser les fêlés laissent jaillir la lumière qu'ils ont en eux. Voilà. Je redonne les dates à Lyon en particulier, les 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 mars au Comédie Odéon. Et avant, vous aurez été le 14 mars à Gland en Suisse. Puis au mois de mai à Agen, Villeneuve-sur-Lot, Montauban. On vous recommande follement d'aller applaudir en attendant Bojangles. Des projets, j'imagine. Vous êtes toujours au cinéma, Tania, à l'affiche de L'Ours.
Tout à fait.
L'Ours dans le Jura.
Caméo en ex-épouse de Benoît Poulvorne.
Voilà. Vous êtes jusqu'au 22 février. Vous jouez dans Silence en coulisses aussi, en plus.
Alors, de cette tournée. Mais c'est la torture aventure chinoise la plus folle qu'on ait jamais faite. Bon, je sais pas s'il y a des acteurs qui nous écoutent,
si on vous mais propose le rôle,
jamais, jamais on a répété quelque chose d'aussi difficile. En fait, cet auteur, Michael
Silence
Flynn,
en
c'est,
coulisses.
C'est une
coulisses.
Sorte de très, bible très de la comédie anglaise. Ça s'est joué au National Theatre. Et il s'est arrangé pour que son texte, n'importe, quel que soit le pays où on le joue, dans n'importe quelle langue, si on ne fait pas exactement ce qu'il a écrit, on est dans une impasse de page.
Il y a 137 000 portes qui claquent, et c'est la pièce vue de face et de coulisses à un mois d'intervalle, puis encore de face un an plus tard, et ça part de plus en plus en couille. Et donc on croit qu'on joue trois fois la même chose comme acteur, sauf que pas du tout. C'est il ouvre la porte, il prend le cactus, il frappe. Puis non, il ouvre la porte, il prend pas le cactus, il frappe pas. Et donc c'est insupportable à répéter. Mais c'est une fois que ça marche.
C'est très savoureux, c'est une bande de bras cassés, une troupe d'acteurs qui essaye, qui, à la veille d'une première, de jouer un vaudeville très mauvais qui s'appelle Rien ne va plus. Et puis on voit les coulisses, qui est assez chouette.
C'est à Bruxelles que ça se joue, au théâtre Le Public. Avec Charlie Dupont, Tania, vous allez présenter l'émission Incognito sur la 3, une chaîne de la RTBF.
Sur la 3, la 1, et pour nos compatriotes français, oui. Sur TV5.
Bon. Très bien. Et vous serez prochainement dans Braqueuse malgré elle, de Jérôme Lotsky et Eric Montalier. Montalier, pardon.
Alors ça s'est déjà passé.
C'est déjà sorti ?
Ah non, pas du tout, pardon. C'est parce que j'ai fait un autre, excusez-moi.
Braqueuse malgré elle.
Oui, en effet.
Avec Charlotte Gabouy, Stanis David, Armel Dutch.
Oh là là, mais oui, vous êtes bien informés, tout à fait.
Non, écoutez,
je ne connaissais pas encore moi.
On essaie de suivre.
Mieux que moi, c'est vrai.
Et quant à vous, Charlie, on vous retrouvera prochainement sur M6 dans Au nom d'Emma, qui est une fiction en deux épisodes inspirée de l'affaire de la Josacine, je ne sais pas comment on dit.
Josacine. Empoisonnement dans un village, tout à fait.
Très bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Mais absolument, désolé pour tous les romantiques qui aujourd'hui, jour de Saint-Valentin, s'attendaient à une avalanche de chroniques fleurs bleues pleines de beaux sentiments et qui ont eu droit de la zoophilie, de la scatophilie, de la scatophagie à mes baloches aussi, des sextoys jambes de bois et j'en passe. Alors, en même temps, c'est aussi ça l'amour. Hein, qu'est-ce qu'il y a, Lisa ? L'amour, c'est bien quand c'est sale. Ah, ben voilà une parole sensée. Désolé pour tous ceux qui trouvent que à la BO, on ne reçoit pas assez de stars. Eh ben aujourd'hui, on avait qui ? On avait qui ? On avait Choco Prince. Eh ouais ! Il était là, à côté de moi. Et je peux vous dire, il est beau le salaud. Désolé pour nos auditeurs qui, comme Lisa, ont été surpris d'apprendre que Nagui et Pierre Arditi étaient vivants. Alors, je vous cache pas que moi aussi, j'ai été surpris, mais j'ai vérifié. Non, il bouge encore le Fennec. Et désolé enfin pour Nagui. Nagui qui a fait une sortie de route, mais une sortie de route comme on n'en a jamais eu avant.
On n'est pas obligé de répondre aux injonctures.
Oh là 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 là. Ben, c'est clair, c'est vrai, il y a des mots plus difficiles que d'autres, c'est sûr. Bon, l'important, Nagui,
c'est une langue nouvelle pour moi.
C'est avoir la bonne prononciature. Voilà.
J'ai oublié, pardon, de parler de Prayer for the French Republic aussi, dont vous avez acheté les droits.
Oui.
Parce que vous voulez continuer de travailler ensemble, Tania et Charlie, évidemment.
Oui. Et
puis c'est une pièce américaine, c'est ça ?
C'est une pièce américaine qui a d'abord été créée off-Broadway, puis qui a ensuite été remontée à Broadway, d'un auteur new-yorkais qui s'appelle Joshua Harmon, et qui est absolument magnifique, et qui raconte l'histoire d'une famille juive en 40-45, et puis en 2016, juste avant les élections Macron-Le Pen.
À Paris, ça se passe à Paris et c'est écrit comme un Bakri Jaoui, c'est extrêmement drôle et c'est un pamphlet
sur quoi ? Sur la sécurité dans notre société ?
Anti-Front National et c'est en effet, qu'est-ce qui donne envie de partir à certaines...
Où est-ce qu'on est en sécurité dans ce monde ? Et ouais, puis oui, c'est monté comme un split screen, ce qui se voit très rarement quand même au théâtre. Il y a la moitié de la scène se passe en 40-45 et l'autre en 2016.
Parfait, bah on aura l'occasion d'en reparler
Nice,
en tout cas.
Mise en scène de Muriel Mayette.
Parfait. En attendant, Bojangles en tournée, merci mille fois d'être venus.
Merci,
tous les deux, bonne Saint-Valentin.
Allez, à la maison.
On se retrouve lundi avec Valeria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille.
C'est ça, cette semaine-là.
C'est toi qui vas les accueillir avec la bande. Passez une belle semaine avec Leïla et la bande originale. Ciao.
Merci.